Il est 8h21.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Questions et réactions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter. Jean-Michel Blanquer, bonjour.
Bonjour.
La lettre aux Français du président de la République, ça y est publiée ce matin dans la presse et sur Internet. Cette lettre est un appel au débat, au grand débat qui va démarrer demain. Elle en décrit les thèmes, elle suggère un certain nombre de questions qui pourraient y être débattu. Avant d'entrer dans le détail, Jean-Michel Blanquer, dites-nous en quelques mots plus généraux, quelle est votre lecture d'ensemble de cette missive? Qu'en retenez-vous?
D'abord que ceci nous met dans une situation démocratique inédite. C'est inédit d'avoir un débat de ce type à l'échelle nationale. Et à l'échelle mondiale, je n'ai pas d'exemple comparable. Donc c'est une occasion à saisir pour sortir vers le haut de la crise que nous venons de traverser. Donc c'est d'abord et avant tout cela qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, je vois avec satisfaction que les Républicains ou les Socialistes ou même les Communistes ont réagi constructivement à cette proposition. Et ce qui nous remet dans un cercle républicain qui est celui dont nous avons besoin. Et qui fait un petit peu écho à ce qu'on vient d'entendre de la part de Pierre Aski, d'ailleurs. Autrement dit, aujourd'hui, il y a la possibilité pour toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, quelles que soient leurs opinions politiques, bien de participer à un grand débat qui va permettre de faire surgir des mesures concrètes. C'est tout de même quelque chose de formidable, c'est ce que dit aussi, c'est ce qu'écrit le président dans sa lettre, c'est-à-dire la France est quand même un grand pays démocratique et c'est une chance d'avoir ce type de possibilité. Dès qu'on fait un peu de comparaison internationale, on peut se rendre compte que c'est quand même c'est une chance.
C'est une chance, c'est la dernière.
On ne doit jamais dire ça, mais il est évident qu'on est devant d'abord un second temps du quinquennat de manière incontestable et que encore une fois, quelles que soient les opinions politiques de chacun, c'est une occasion de faire valoir son point de vue. Et puis, c'est une occasion de développer de nouvelles politiques publiques pertinentes, notamment sous l'angle de la justice sociale et territoriale.
Pour rester sur l'esprit de cette lettre et de ce grand débat, avant de rentrer dans les questions concrètes et peut-être les questions qui fâchent, quelle inspiration préside à ce grand débat et à cette lettre? Est-ce que vous y voyez un hommage à la démocratie directe des Grecs, à Jean-Jacques Rousseau ou à la démocratie participative de Ségolène Royal? Vous y voyez un hommage à quoi, à qui?
À tout ce que vous venez de dire, moi j'ai parlé de moments tocquevilliens parce que en pensant à la démocratie en Amérique, pas l'ancien régime et la révolution, et bien parce que je pense que en effet, c'est pour la France qui n'a pas beaucoup cette culture-là, c'est une occasion de franchir un cran nouveau. On voit bien, et là encore ça fait écho avec ce qu'on vient d'entendre de Pierre Aski, on voit bien que on est en train de rentrer dans une nouvelle civilisation. Nous, la planète entière rentre dans une nouvelle civilisation. Et que ceci interroge les modalités républicaines et démocratiques et l'état de droit. Ça peut l'interroger très positivement, parce qu'il y a de nouvelles manières de participer qui sont possibles, comme ça peut l'interroger très négativement si on est uniquement dans l'invective et dans cette sorte de cercle vicieux du conflit qui peut mener à des choses négatives. Donc on a, en effet, on peut se situer dans une très grande tradition, que ce soit la Grèce antique, celle de la Révolution française, ou celle de la participation citoyenne telle que pensée au XIXe siècle, et l'actualiser au XXIe siècle. C'est pourquoi l'enjeu est considérable. Il est vraiment très politique dans le meilleur sens du terme.
Pourquoi y avoir remis, Jean-Michel Blanquer, la thématique de l'immigration couplée à la laïcité, qui avait été annoncée dans un premier temps, puis retirée, qui réapparaît donc, pas exactement au même niveau que les quatre autres thèmes, mais qui est là malgré tout. Avez-vous vu cette thématique, tout simplement, portée massivement par les Gilets jaunes depuis le début de leur mouvement? Quelle urgence y a-t-il à réfléchir sur ça, au moment où c'est une question de pouvoir d'achat, surtout, qui a surgi, et de réforme des institutions?
Non, le sujet de l'immigration est d'une part, et le sujet de la laïcité d'autre part, sont des sujets présents dans les débats. Quand on discute avec les Gilets jaunes ou quand on regarde les différents comptes rendus, c'est présent. Donc,
et ça par ailleurs, quand même très, dès le début, très 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 loin,
oui,
derrière,
mais
les autres thèmes.
C'est d'ailleurs, c'est ce qui justifie le statut que ça. Dès le début, il n'y a pas eu de changement sur ce point, contrairement à ce que vous avez dit, puisque au début, il y a eu un petit débat qu'on a eu d'ailleurs en Conseil des ministres pour savoir si c'était une sorte de cinquième axe. Il a été arbitré que c'était à l'intérieur de l'un des quatre axes, et c'est donc maintenant à l'intérieur de l'un des quatre axes.
Il n'y a pas de sujet interdit, mais ça ne sert à rien de débattre de l'ISF, puisqu'on ne reviendra pas sur l'ISF. Est-ce que ce n'est pas une contradiction ?
Non, alors, il n'y a pas de sujet interdit, donc ceux qui voudront en parler pourront bien entendu le faire, et la fiscalité est sur le devant de la table. Finalement, l'ISF est devenu une sorte d'emblème, mais derrière ça, c'est la question de la justice fiscale. Et donc, le grand débat peut d'ailleurs être l'occasion aussi d'une sorte de pédagogie fiscale et budgétaire. Les Français ont beaucoup demandé ça, c'est-à-dire mieux comprendre à quoi sert l'argent et à qui il est pris, de quelle façon.
Enfin là, donc, quand on regarde les lettres de doléances, les cahiers de doléances, ce qui ressort, c'est la principale demande, c'est le rétablissement de l'ISF. C'est pas la pédagogie sur la fiscalité.
Mais c'est une façon de dire, on a envie d'une justice fiscale bien faite. Et ce sujet-là va évidemment être abordé. Je rappelle d'ailleurs...
Il va être abordé, mais vous ne bougerez pas.
Je pense que, non, mais par exemple, on parle toujours de l'ISF, mais je rappelle, on le dit assez peu, mais en fait, une bonne partie de l'ISF est restée, ça s'appelle l'IFI. Il y a encore un impôt sur la fortune immobilière. La France est encore un des pays qui taxe le plus la richesse. Il ne faut jamais oublier de le rappeler. Alors, on peut en discuter, on peut regarder. Il peut y avoir des nouvelles modalités qui feront, par exemple, je ne vais pas justement donner des
idées là-dessus. Si vous
êtes
en train de donner votre avis.
Très bien, vous avez le droit de participer au débat, vous aussi. Hein.
Je vais y participer, bien sûr, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important derrière certains emblèmes, c'est en réalité la question de justice fiscale. Et pour y arriver, il faut aussi qu'il y ait une pédagogie de ce qu'est la fiscalité française aujourd'hui, qui est devenue très complexe, très difficile à lire, et qui donne peut-être parfois un sentiment d'injustice parce qu'elle n'est pas suffisamment débattue, pas suffisamment comprise.
Est-ce que vous pensez, Jean-Michel Blanquer, que le lancement demain du grand débat va stopper, ralentir, mettre entre parenthèses les manifestations rituelles du samedi? Est-ce que vous le demandez?
C'est souhaitable.
C'est possible,
vous savez,
ou pas?
Vous savez, depuis le début, quand je suis venu à votre micro au début du phénomène, j'ai utilisé cette formule, c'est « nous gagnerons ensemble ou nous perdrons ensemble ». En ce moment, l'économie française subit des dommages de la part de ce qui s'est passé. Et quand l'économie subit des dommages, c'est nous tous qui en pâtissons. Et c'est le pays, avec son image, qui en pâtisse. Donc le message a été entendu, le message des Gilets jaunes a été entendu. Nous sommes en train d'en faire quelque chose de constructif. Nous sommes en train de faire quelque chose de constructif pour tous les Français. Il ne faut pas oublier que il y a une diversité de pensées. Tout le monde n'approuve pas les manifestations, loin s'en faut. On voit bien que le pays peut être un peu divisé en deux par rapport à cette question. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces manifestations. En réalité, ce qui est important aujourd'hui, maintenant, c'est d'avoir une activité économique et sociale normale et de débattre de manière démocratique et républicaine. C'est pourquoi, encore une fois, je salue le fait que les partis d'opposition qui sont dans la logique républicaine ont bien dit qu'ils voulaient participer à ce débat.
Donc restez chez vous samedi prochain.
Oui, je pense que c'est important que les commerces fonctionnent, que les lieux de débat fonctionnent. En ce moment, ça n'est plus nécessaire d'avoir ce type de manifestation. Et c'est souvent contre-productif. Regardez, voilà, samedi dernier, c'est les journalistes qui en ont fait le plus les frais. Qui ce sera la fois d'après? Enfin, si vous voulez, il y a beaucoup de gens de bonne foi qui sont dans la rue, mais à chaque fois, on ne peut pas empêcher qu'il y en ait qui profitent pour faire de la violence. Donc, on voit bien que ça n'est pas indispensable.
Les violences faites aux journalistes, et notamment aux reporters qui ont été pris pour cible et agressés par plusieurs gilets jaunes, ou en tout cas par des casseurs, je ne sais pas. Est-ce que vous estimez que le traitement journalistique de la crise des Gilets jaunes a été juste ou qu'il a été exagéré?
J'aurais des critiques à faire, mais j'ai pas très envie de les faire parce que j'ai pas envie d'ajouter à ce qui a provoqué les choses samedi. J'aurais pas le même point de vue évidemment que ceux qui ont agressé des journalistes. J'aurais un point de vue très très différent. Je pense que les médias en général, et j'inclus évidemment tout ce qui se passe sur Internet, ont contribué à une exaspération des esprits, y compris en amont de la crise. À certains moments, moi, j'ai le sentiment d'avoir les réseaux sociaux dans la rue d'une certaine façon, c'est-à-dire cette manière de s'adresser à autrui qui passe du monde virtuel au monde physique. Et quand moi je vois un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je suis toujours un petit peu effondré de voir la tonalité de non-respect qui existe entre les uns et les autres.
Mais la critique des réseaux sociaux, c'est une chose, la critique des médias, c'en est une autre. Là, vous mêlez les deux.
Bien sûr. Non, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ambiance médiatique au sens large du terme. Et vous avez raison, il faut faire ensuite la distinction. Et c'est pour ça que ça invite à une réflexion sur les médias. Mais maintenant, encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans un procès des médias, c'est vraiment pas le moment. Mais c'est vrai que rétrospectivement, c'est intéressant de voir comment il y a des miroirs grossissants. Vous savez, il y a beaucoup d'études qui montrent comment les réseaux sociaux conduisent à une sorte de prisme cognitif pour chacun, c'est-à-dire on voit ce qu'on a envie de voir et on se crée un monde qui est un monde totalement subjectif. Bien, il se passe quand même un peu cela aussi avec les médias. On met toujours l'accent sur ce qui ne va pas. Je vais vous donner juste un exemple. Jeudi, j'étais dans les Hautes-Alpes et j'ai eu des dizaines de rencontres dans la journée. Et j'ai eu deux moments où j'étais sur des ronds-points. Une fois, c'était avec des gilets jaunes. L'autre fois, c'était plutôt avec un cortège syndical assez classique. La première fois, j'ai discuté avec les Gilets jaunes, on a parlé, c'était très intéressant. D'ailleurs, ça préfigurait ce qui peut se passer pour le grand débat. Je suis parti, pardon de vous lire, mais j'ai été applaudi. Quand je suis parti, c'était applaudi. Il y avait des caméras. Je ne l'ai vu sur aucune chaîne. L'après-midi, j'arrive dans un cortège syndical que je qualifierais de classique. C'est-à-dire que je rencontrais même avant la crise des Gilets jaunes. Une dame me criait dans l'oreille quand je parlais, et donc je lui ai dit que je pouvais pas parler si elle me criait dans l'oreille. Et ça, c'est passé sur toutes les chaînes, et le titre, c'était « Les ministres chahutés », alors que j'ai passé la journée, au contraire, dans des discussions constructives avec des gens, dans une atmosphère de construction. Donc si vous voulez, c'est ce que j'appelle le prisme cognitif. On finit par dire, par faire voir un monde qui ne correspond pas pleinement à la réalité. Donc je pense que ça doit nous inviter tous à réfléchir. Mais je me garderais bien de faire un procès généralisé. Je pense que c'est justement ce qu'il faut éviter.
Jean-Michel Blanquer, quand on regarde la longue liste des réformes encore à faire, on a les retraites, la PMA pour toutes, dans votre domaine, le service civique universel, avancer encore sur la réforme du bac. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de réformer, ou allez-vous juste, pour le dire vite, expédier les affaires courantes et ne plus bouger jusqu'à la fin du quinquennat?
Ah non, la réponse est claire et simple. C'est évidemment la première branche de votre alternative. Bien sûr qu'il faut réformer. Et bien sûr que c'est ce
Mais
que réclame le pays.
Mais est-ce encore possible? Est-ce encore possible?
Oui, bien sûr, c'est possible.
Le niveau de dissension et de critique de tout.
Et justement, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a la possibilité d'un débat constructif, la possibilité de concevoir des politiques publiques sur la base d'inspiration populaire. C'est justement le moment où nous nous trouvons. Moi, j'y puise de l'énergie pour la suite. Je pense que nous avons enclenché des choses très importantes. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous savez, je suis aussi ministre de la jeunesse et de la vie associative. On a 1000 choses à faire pour que la société française soit plus juste, notamment en encourageant l'engagement associatif et tout ce qu'il signifie. Donc, je reste optimiste sur le fait qu'on peut faire émerger de débats locaux des éléments d'engagement et des idées nouvelles. J'en ai proposé certaines autour du budget participatif.
Mais comment vous allez faire passer une réforme des retraites quand on sait que c'est le sujet le plus explosif? Comment vous allez faire dans quelques mois passer cette réforme-là, demander des efforts aux Français dans le contexte actuel? Vous pensez sérieusement qu'à l'issue de ces trois mois, l'API aura retrouvé l'esprit de réconciliation et de paix et de sérénité pour faire passer une réforme des retraites?
La réforme des retraites est d'abord une réforme de justice, de nouveau. Elle est faite, à mon avis, et c'est le travail de Jean-Paul Delevoye actuellement, elle est justement faite pour simplifier, pour que ce soit plus lisible. Aujourd'hui, personne n'y comprend rien parce qu'il y a de très nombreux régimes de retraite avec des situations différentes. Là, le but est d'aller vers quelque chose qui soit plus juste, plus égalitaire en réalité. Et donc, là encore, il y a de la consultation, de la pédagogie à faire. On est encore au début du processus. Et donc, je crois au contraire que la future réforme des retraites telle que conçue par Jean-Paul Delevoye doit être une réforme qui correspond aux aspirations des gens aujourd'hui, c'est-à-dire de l'égalité, de la transparence.
Les stylos rouges.
Voilà, il y en a un certain nombre au standard de France Inter. Ce mouvement des stylos rouges se bat pour le pouvoir d'achat. Jean-Michel Blanquer, le pouvoir d'achat des professeurs réclame la réindexation des salaires sur l'inflation. N'est-ce pas le moment aujourd'hui de répondre positivement à leur attente?
C'est ce que j'ai fait et je me suis déjà exprimé sur ce point et je le refais bien volontiers. D'abord en disant que je n'ai aucun problème avec le diagnostic qui est fait par les stylos rouges, puisque c'est celui que j'ai fait depuis que je suis arrivé. C'est-à-dire, j'ai parlé de cette question de la rémunération et cette question du bien-être matériel et immatériel des professeurs, de la considération qui est absolument nécessaire dans notre société et qui est bonne non seulement pour eux si elle s'améliore, mais aussi pour la société dans son ensemble. Donc je suis totalement convaincu de ça, c'est pour ça qu'on a déjà entamé tout un travail sur le pouvoir d'achat. C'est ce qui m'a permis de dire, par exemple, qu'un professeur des écoles en fin de quinquennat touchera 1000 euros, débutant touchera 1000 euros de plus par an qu'en début de quinquennat, que nous allons prendre d'autres mesures dans ce sens.
Mais pourquoi, à la fois pourquoi est-ce que leur salaire n'est pas indexé sur l'inflation avant tout, avant même de penser à augmenter les salaires par la suite?
Alors, si vous voulez, il y a plusieurs sujets derrière votre question. Il y a d'abord le point d'indice, et qu'on se focalise beaucoup sur le point d'indice, donc qui est une mesure fonction publique. C'est vrai qu'il est gelé, mais je pense qu'on ne doit pas se focaliser uniquement sur le point d'indice, parce que la question, c'est aussi le nombre de points que l'on a. Donc moi, je ne travaille pas sur le point d'indice, parce que c'est d'ailleurs pas dans mes fonctions. En revanche, je travaille sur la possibilité d'avancer plus rapidement, et d'avancer mieux, et donc d'avoir une rémunération plus forte. C'est cela qui peut être une augmentation, disons, je dirais, universelle pour tous les professeurs dont il faut rappeler quand même que, enfin, s'agissant de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, c'est plus d'un million de personnes. Donc, c'est évidemment ce qui rend difficile budgétairement de faire des efforts importants. Pourtant, c'est ce que nous faisons.
J'entends la difficulté, mais quand on voit que le gouvernement a trouvé assez facilement de quoi donner une prime aux policiers et aux gendarmes à la fin de l'année, ils ont du mal à trouver de l'argent pour les profs et les enseignants.
Il y a de l'argent. Vous savez, on a dit les 10 milliards, il n'y a rien pour les professeurs. Ça n'est pas exact. Quand il y a la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est plus de 250 millions d'euros qui vont en réalité vers les professeurs. Lorsque j'ai pris les mesures consistant à mettre plus d'heures supplémentaires, certains le contestent, c'est un choix qui se discute, mais en tout cas, c'est un choix que j'ai fait. Ça signifie plus de pouvoir d'achat dans l'enseignement secondaire. Quand on prend les mesures que l'on a prises de pouvoir d'achat, elles touchent notamment le premier degré, mais aussi le second degré. Il y a d'autres mesures, comme les primes en réseau d'éducation prioritaire renforcée. Oui. Tout ceci, c'est pour aller dans le sens du pouvoir d'achat.
Mais il y a bien eu un choix de privilégier les forces de l'ordre par rapport aux enseignants. On peut le dire comme ça, simplement, l'assumer.
Non, il y a des sujets de rattrapage. On veut toujours comparer, c'est normal d'une certaine façon, mais prenez par exemple les policiers, ils se fâchent sur le sujet que leurs heures supplémentaires ne sont pas payées. C'est un vrai problème et c'est quelque chose qui sera rattrapé avec du temps. Nous, on les paye, les heures supplémentaires. Donc il ne faut pas toujours voir l'herbe verte du voisin uniquement. Si vous voulez, il y a aussi des choses qui vont mieux à l'éducation nationale qu'ailleurs et par ailleurs, nous cherchons à les améliorer parce que, encore une fois, je reconnais largement le sujet, donc je n'ai pas de problème. Simplement, maintenant, que faisons-nous année après année pour rattraper cela, puisque ça fait une vingtaine d'années qu'il y a eu une dégradation du pouvoir d'achat des professeurs et qu'on doit maintenant rattraper cela, c'est ce que je fais.
Allez, on file au standard. Nombreux appels. On commence avec Laurence. Bienvenue. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, monsieur Blanquer.
Bonjour, madame.
Alors, moi, je vous appelle parce que je suis mère d'un élève qui est actuellement en classe de seconde. Et cet élève, comme bien d'autres, devra d'ici quelques semaines, en fait, choisir trois spécialités. Ces spécialités, elles vont donner un profil nouveau et très particulier à son baccalauréat. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent en lien avec ces spécialités et l'une d'elles est vraiment essentielle parce qu'elle touche à l'orientation post-bac. Alors, ma question, la voici. Est-ce que l'on peut décemment laisser les élèves qui sont actuellement en classe de seconde faire leur choix en fonction seulement de leurs appétences et sans connaissance des prérequis qui seront formulés d'ici quelques temps par les établissements d'enseignement supérieur, et tout cela au risque qu'ils se trouvent bloqués d'ici 2 ans au moment d'entrer dans le supérieur.
Merci Laurence pour cette question. Jean-Michel Blanquer vous répond.
Merci madame, c'est évidemment une excellente question. Elle nécessite du temps si on me le permet. Je vais vous faire une réponse générale, une réponse technique. Sur la réponse générale, c'est que sous l'angle que vous adoptez, c'est clairement une amélioration par rapport à la situation antérieure, pour la voie générale, puisque nous sortons d'une situation où vous aviez le choix entre 3 couloirs, S, E, S et L. L'un des couloirs, que ça nous plaise ou non, avait plus de prestige que les autres, S. Et donc, c'était un couloir, d'une certaine façon, avec des trous, puisque après la classe terminale, justement, les gens, en ayant fait, par exemple, E, S ou L, se voyaient fermer un certain nombre de portes. L'ensemble des réformes que nous menons, y compris la réforme Parcoursup, est faite pour diversifier les parcours, pour dire que les choses ne sont pas monolithiques, qu'on ne fait pas des choix définitifs à 15 ans. Et c'est assez étrange aujourd'hui qu'on nous fasse le reproche inverse, et c'est pour ça que je dois davantage expliquer pourquoi on a fait cela. On a fait cela pour que les élèves puissent composer des menus qui conviennent à leur goût, à leurs appétences, et que ceci soit cohérent avec ce qu'ils vont faire ensuite. C'est pourquoi je vous fais aussi une réponse technique, c'est que aujourd'hui même, et ça c'est quelque chose de nouveau que j'en profite pour annoncer, c'est nous sortons une plateforme qui s'appelle Horizon 2021 sur Internet et qui permet à chacun de regarder à partir des métiers, à partir des filières d'enseignement supérieur qui commencent à l'intéresser, de voir un petit peu le genre de combinaison qui sont intéressantes pour l'élève. Autrement dit, on ne fonctionne pas à l'aveugle. Et c'est aussi une des vertus de la réforme, c'est que elle vous conduit, vous madame par exemple, en ce mois de janvier, à vous poser de très bonnes questions sur ces sujets, alors que très souvent, on attendait finalement la fin de seconde et la fin de terminale pour se poser ce type de questions. Donc c'est extrêmement utile d'être dans cette situation. Et bien entendu, c'est un cheminement pour lequel vous avez vocation à être accompagné par les professeurs, par l'ensemble de la communauté éducative du lycée.
Camille est en ligne. Bonjour Camille. Bienvenue.
Bonjour.
Bonjour. On vous écoute, Camille.
Les jeunes.
Oui. Alors, je.
Vous avez quel âge ?
J'ai 16 ans.
D'accord. Bienvenue sur Inter.
Merci. Le mouvement lycéen se mobilise depuis maintenant plusieurs semaines dans l'attente des réactions, notamment du ministère de l'Éducation nationale. Et je voulais savoir si M. Blanquer comptait réagir justement à ces revendications lycéennes.
Merci, Camille, pour cette question. Jean-Michel Blanquer vous répond.
Oui, bien sûr, je suis très attentif à tout ce qui se dit dans le cadre des différentes manifestations. Je suis attentif à tout ce que disent les lycéens. Il y en a qui manifestent, il y en a aussi beaucoup qui ne manifestent pas. Je les ai beaucoup écoutés, notamment dans le cadre du système démocratique des lycéens, c'est-à-dire ce qu'on appelle les comités lycéens. Donc, il y a dans chaque lycée un élu lycéen, un CVL, ensuite, dans chaque rectorat, un CAVL, à l'échelle nationale, le CNVL. J'ai réuni ce CNVL juste avant les vacances de Noël.
Là, vous êtes technique, là.
Un certain nombre.
Qui sont pas
ce Conseil
CNVL.
National de la vie lycéenne, autrement dit les élus lycéens de France. C'est extrêmement constructif. Tout un chacun peut voir d'ailleurs le compte-rendu de ce qui y est dit. Le genre d'attente des lycéens, c'était par exemple ce que j'ai dit tout à l'heure sur Horizon 2021, c'est-à-dire avoir plus de précision, plus de clarté sur la cohérence entre les choix qu'ils font en fin de seconde et ce qui se passera ensuite après la classe de terminale. C'est aussi la possibilité d'avoir plus de choix, d'avantager davantage les lycées de la périphérie des villes ou de la ruralité. Et donc c'est aussi ce que nous avons fait dans l'implantation des spécialités. Aujourd'hui, je voudrais juste dire que un lycéen d'hier, c'est-à-dire d'une classe de seconde de l'année dernière, avait le choix en voie générale entre trois voies. Aujourd'hui, c'est une vingtaine, voire une trentaine de combinaisons qui vont exister dans chaque lycée.
Donc, parfois, c'est plus perturbant aussi, quand on a 30 choix plutôt que 3.
Ah, la liberté pose toujours des problèmes, mais j'ai toujours pensé que les lycéens aimaient la liberté.
Sur la proposition de supprimer les allocations familiales aux parents d'enfants violents, vous y êtes favorable? On en est où? Ça va se faire? Ça va se faire quand? Est-ce que vous avez une réponse précise?
Là aussi, c'est par rapport au sujet des médias dont on parlait tout à l'heure, c'est assez intéressant puisque c'est en fait un article d'un quotidien qui a déclenché ça. Je me suis pas exprimé sur le sujet. J'ai dû réagir à cet article, mais j'attends encore le rapport sur la base duquel ensuite nous prendrons des décisions à la fin du mois de janvier. Moi, depuis le début, nous avons défini trois axes, la sécurisation autour des établissements, la création de structures dédiées pour les élèves les plus violents, et puis troisièmement, ce qu'on a appelé la responsabilisation des familles. Et depuis le début, j'ai énoncé des grands principes qui sont simples, qui sont notamment le pragmatisme et la possibilité de voir les choses au cas par cas. Et voir les choses au cas par cas, c'est par exemple aider une famille quand elle est dans la difficulté, mais en tout cas voir les sources familiales du problème, et parfois effectivement envisager, à ce stade c'est envisager, mais envisager comment les sanctions financières, qui sont pas forcément les allocations familiales, qui peuvent être d'autres modalités, mais en tout cas comment des sanctions peuvent être dissuasives par rapport à certains comportements.
Ça va se faire quand?
C'est à la fin du mois de janvier que je dirai ce qu'il en est. Parce que nous le dirons d'ailleurs, parce que c'est un sujet interministériel. Mais c'est un sujet très important. Il y a eu beaucoup d'émotions dans le cadre du mouvement Pas de Vague, et puis au moment où on devient concret, d'un seul coup, certains plaident pour le statu quo. C'est assez étonnant. Moi, je veux être très actif. Et puis, je voudrais rappeler que quand on lutte contre la violence, on lutte pour la protection des plus faibles. C'est ce que je fais. Et donc, le vrai progressisme, il est là.
Et quand est-ce que l'école va commencer à 9h du matin?
Alors, non, ça c'est
juste tôt, hein. C'est avant.
Il y a juste en ce moment l'idée d'une expérimentation. On l'a envisagé en Île-de-France puisque la présidente de la région Valérie Pécresse était intéressée par cela. À ce stade, c'est à petite échelle pour voir si cela peut présenter un intérêt, mais j'en fais pas l'alpha et l'oméga d'une politique des lycées.
Jean-Noël nous demande, auditeur, vous demande, que pensez-vous, Jean-Michel Blanquer, des propos, ce sera la dernière question, de Luc Ferry, donc ancien ministre de l'Éducation nationale, sur les tirs des policiers. Luc Ferry qui a demandé que les policiers fassent usage de leurs armes.
Non, mais il me semble qu'il a corrigé son propos ensuite, donc je voudrais... c'est évidemment un propos plus que choquant, et qui permet d'ailleurs de se rendre compte à quel point c'est important d'avoir une police républicaine maîtrisée comme nous l'avons. Vous savez, il y a toujours beaucoup de critiques de tout le monde vers tout le monde d'ailleurs, mais y compris des sujets policiers. Mais et bien sûr qu'il y a parfois des problèmes, mais malgré tout, nous sommes une magnifique démocratie avec un vrai état de droit. C'est précieux. Quand on voit les manifestations et quand on voit la proportionnalité des réponses, la plupart du temps, c'est quelque chose de très précieux. Là aussi, il faut faire de la comparaison internationale. Regardons comment se comportent d'autres polices.
Donc des propos de cette nature.
Ces propos de cette nature enflamment les choses, mais il les a corrigés. Donc ne lui faisons peut-être pas trop ce procès.
Jean-Michel Blanquer, merci d'avoir été au micro de France Inter.